toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez, votre rendez-vous socio-culturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur radiocampustour.com. Nous sommes le lundi 14 mars, il est 16h et comme tous les lundis, c'est Marie qui entame avec sa chronique, une chronique donc culturelle, qui va aujourd'hui s'intéresser à un label, le label Capitale Française et Européenne de la Culture.
Oui, tout à fait. Du coup, pendant très longtemps, on a seulement entendu parler du titre de Capitale Européenne de la Culture. C'est normal parce que le label de Capitale Française est tout nouveau, il a seulement 2-3 ans. Donc, quelles sont leurs différences? Est-ce qu'elles ont un lien? Qu'est-ce que ça veut concrètement dire? C'est à peu près tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc déjà, on va commencer avec le label Capitale Européenne de la Culture parce que il était là en premier, donc commençons par lui. Il a été créé en 1985 à l'initiative de Mélina Mercouri. Donc à l'époque, c'était la ministre de la Culture grecque et sa volonté, c'était de mettre la culture en avant, qu'elle trouvait sous-représentée et encore plus dans l'Union européenne parce que globalement, c'est une alliance politique et économique. Donc elle voulait créer une nouvelle chose. Et du coup, la première capitale européenne de la culture, c'est Athènes en 1987, donc 2 ans après. D'ailleurs, à l'époque, ça s'appelait une ville européenne de la culture et pas une capitale. Donc le but, c'est simple, c'est un label qui est utilisé pour mettre en valeur la diversité de la richesse culturelle en Europe et les liens qui nous unissent en tant qu'Européens. Voilà, c'est ce que la Commission européenne dit pour définir le label de capitale européenne de la culture. Donc c'est très joli, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, c'est un label que l'on attribue à 2 villes issues de l'Union européenne pendant 1 an. Donc au début, c'était une ville, mais vu qu'au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de pays, maintenant on a un pays qui est issu des anciens États membres et un autre pays qui est issu des nouveaux États membres. Et en fait, la récompense à la clé, c'est globalement une couverture médiatique très importante parce que dans toute l'Europe, on parle de la ville, les gens y vont, le tourisme augmente fortement. Donc comment on met ça en place? C'est un processus très long parce qu'en fait, ça commence 6 ans avant. Donc par exemple, en ce moment, en France, il y a des villes qui commencent à candidater pour être la capitale européenne de la culture pour 2028. Donc voilà. Cette année, ce sont du coup la France et la République tchèque qui commencent à concourir et qui ont jusqu'à juin pour déposer leur dossier. Donc dedans, c'est un dossier assez complet qui parle de leurs différents projets, de leurs évolutions, des structures qui vont être mises en place, qui vont évoluer et évidemment de toute la dimension européenne et de son importance parce que faut pas oublier que le but c'est de faire parler, de mettre en valeur l'Europe et la ville, donc il faut qu'il y ait un lien. Notamment en lice, on a Rouen, Bourges, Reims, Nice, Clermont-Ferrand ou encore Saint-Denis. Globalement, chacun prend sa politique culturelle et l'améliore et la fait travailler encore plus pour mettre en valeur. C'est un moment qui permet aux évolutions et aux structures culturelles d'évoluer. Ça a été le cas, par exemple, de Lille en 2004. Il y a eu énormément de changements et maintenant, l'évolution se fait encore sentir. C'est un travail qui a vraiment été poussé et qui a été recherché. Donc, c'est aussi une amélioration. C'est pas que du prestige.
D'accord.
C'est ça. C'est pas que du prestige et pour avoir...
Il y a un budget alloué à ce moment-là?
Alors oui, du coup, l'Europe, elle a une partie de budget, c'est dans justement le budget qui s'appelle Europe Créative, c'est une initiative, et en fait, il y a 30% de son budget qui est alloué à la culture, mais c'est un budget qui est utilisé sur 6 ans, et par exemple, là, il est élevé à, si je ne me trompe pas, il faut juste que je le retrouve dans mes notes, il est à 2,5 milliards d'euros, mais il y a du coup 33% qui sont... pour la culture, donc si on divise à chaque ville et sur 6 ans, ça fait déjà un peu moins de subventions, mais il faut savoir que c'est pas juste une ville qui candidate, il y a l'alliance de la ville, de la communauté, la métropole, de la région, du département, donc là on a vraiment un gros budget qui est alloué à chaque ville, pour la compétition, donc à voir qui sera désigné, ça on le saura en décembre. Voilà. Et évidemment, le Covid a joué un impact important dans les villes. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, les capitales de 2020, qui étaient Galway en Irlande et Rijeka en Croatie, ont été repoussées jusqu'en avril. Elles ont eu 1 an et demi et en 2021, il n'y a pas eu de capitale désignée. Donc l'année prochaine, on aura 3 capitales et non 2. Pareil en 2023, on décale d'1 an parce que c'est très bien d'avoir un label, mais si les personnes ne peuvent pas venir voir et profiter de la culture, ça n'a pas de sens. Donc, c'est globalement la capitale européenne de la culture, c'est ce que c'est. Du coup, qu'est-ce que c'est que la capitale française de la culture? C'est toujours un label, mais cette fois, on descend à l'échelle nationale. C'est tout nouveau, ça fait, à vrai dire, c'est la deuxième année la seconde campagne cette année. Donc la première gagnante, la première capitale française, c'était Villeurbanne en 2021. Donc c'est une initiative qui est venue du gouvernement, et notamment sous le gouvernement de Françoise Nyssen en 2018, donc à l'élection d'Emmanuel Macron. L'idée est du coup décidée et votée en 2019. Donc là, le nouveau ministre de la Culture, c'est Franck Riester à cette époque. Et du coup, mis en place sous le gouvernement, enfin, sous le ministère de Roselyne Bachelot, maintenant, entre 2020. Donc, qu'est-ce que c'est ? Bah, pareil, c'est une campagne pendant un an, un label, un titre que l'on gagne pendant un an pour valoriser les actions faites dans la ville. Et là, du coup, les candidatures sont évidemment beaucoup plus courtes parce que c'est d'une année à l'autre. Le but, là, c'est de montrer la diversité des champs artistiques et culturels, la diversité des territoires, la richesse et le dynamisme. Il y a aussi une importance pour travailler en lien avec les habitants et les associations, etc. Tout simplement, c'est le principe de médiation culturelle et de lien vers le public et de mettre en valeur le patrimoine français, le patrimoine culturel, etc. Sauf que là, la nuance, c'est que le processus est en deux parties et il y a un soutien. Là, un vrai soutien financier de la part de l'État. C'est-à-dire que, du coup, on va revenir sur le processus avant de partir sur le soutien. C'est la DRAC qui choisit. Donc la DRAC, c'est la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Donc globalement, chaque ville envoie son dossier. La DRAC tranche, voit quels sont les meilleurs dossiers. Et à la fin, tous ces dossiers vont vers un jury qui est composé de 10 personnes désignées par la ministre de la Culture et qui reprennent globalement des experts du milieu culturel, donc que ce soit des artistes, des organisateurs d'événements nationaux, des spécialistes en politique public culturel. On a un échantillon assez vaste pour représenter au mieux le monde de la culture, on dirait. Et ensuite, du coup, ce jury décide, trouve 10 dossiers qui vont en phase finale. Et là, les 10 villes doivent fournir un très gros dossier, beaucoup plus complet sur quelles vont être les spécificités de leur ville, quelles vont être leurs actions, etc. Et pourquoi ils mériteraient ce titre, ce label de capitale française de la culture, et pourquoi ils mériteraient le soutien. Parce que, justement, là, on a des subventions qui arrivent de la part de l'État en deux parties. On a en janvier, une fois quand on a le titre, le label, on a une première partie d'un soutien. Alors, j'ai pas trouvé quel était le montant de l'aide, mais bon, il y a une aide économique qui se met en deux parties. Et la deuxième, c'est en juin, tout simplement pour voir si la ville a vraiment respecté ses engagements. Donc, si vraiment la fiche de projet est respectée et si la culture est vraiment bien représentée comme prévu dans le dossier, là, la subvention tombe, mais il y a possibilité que tout ça ne se concrétise pas. Donc, globalement, on est sur les mêmes objectifs, mettre la culture au centre de la politique de la ville ou de la politique nationale et voilà, et avoir un rayonnement touristique, on va dire, attirer les gens dans la ville et donner envie, parce que faut pas oublier que le tourisme, c'est quand même l'attraction majeure économique, enfin une des attractions majeures économiques. Et voilà, maintenant, on n'a pas encore énormément de recul sur les capitales françaises de la culture, donc c'est seulement la deuxième année cette fois, donc est-ce que ça va aussi bien marcher ? En tout cas, au Royaume-Uni et en Italie, ça fonctionne déjà depuis les années 2010, et ça fonctionne plutôt bien. Donc...
On est en retard alors en France ?
Ouais, c'est ça, on s'est un peu aspiré, hein. L'idée n'est pas arrivée toute seule, mais du coup, au Royaume-Uni, c'est tous les 4 ans qu'il y a une campagne, en Italie, c'est tous les ans. Donc ça aide, et on est un peu en retard, mais... Il n'est jamais trop tard, on va dire, pour parler culture et évoluer, tout simplement.
Donc, c'est les villes, en fait, qui proposent leur candidature à ces projets. Et est-ce qu'on sait si Tours a candidaté, alors ?
Non, en tout cas, j'en ai pas entendu parler. Je sais juste que dans les critères, il faut que ce soit une commune ou une communauté de communes, un groupement de 20 000 à 200 000 personnes. Donc, on rentre dans les critères. Est-ce que les dossiers vont être déposés ? Je pense qu'il va falloir demander à la mairie.
D'accord, ça serait une bonne question à poser, parce que bon, il y a un budget finalement qui est alloué, apparemment.
Oui.
Donc, bon, au sortir de la crise sanitaire, on espère qu'elle va se terminer et qu'elle ne reviendra pas. Mais
ouais.
Ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour valoriser les villes, même si bon, c'est qu'une ville en France, je crois.
Une ville par an, mais c'est déjà très bien.
C'est déjà bien, voilà. On ne va pas être trop gourmand.
Exactement.
Mais écoute, Marie, merci beaucoup. Et toi d'ailleurs, qui est dans le monde culturel, qu'est-ce que tu en penses alors de cette mesure ?
Bah, moi, justement, le label, c'est quelque chose sur lequel je suis tombée l'année dernière. Justement, j'étais allée à une réunion à Rouen qui préparait la candidature de la capitale européenne de la culture. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Et en fait, c'est vraiment... Bah, c'est un label, pas pour la gloire, mais disons que ça aide à mettre en valeur. Et je trouve que c'est assez... C'est une idée assez intelligente à l'époque de se dire, bah tiens, on ne sait pas comment faire, alors on va parler d'une ville spécifique. Si les gens sont intéressés, ils vont y aller. Et aussi, ça... aide à motiver les politiques, parce que là, évidemment, encore plus avec la capitale française de la culture, on a de l'argent à la clé. Disons que ça motive un peu plus les politiques d'accentuer les actions dans le domaine culturel. C'est une façon d'augmenter les politiques culturelles. Alors, à voir sur le long terme, mais j'y crois.
Bon, eh bien, peut-être que tu nous feras un retour alors dans quelques années sur cette politique culturelle. Eh bien, on va se marquer une courte pause musicale. On va écouter du boom bap féminin, Shorties Nomas, avec le titre Who Like My Style, et on se retrouve juste après.
Give me props on the style plus the high octave. I give my thanks, yup. Plus you used to come to all the shows to hear me rip it in the wood. You dug the style, I got the goods. Couldn't figure out why you had to wait a bit. Now it's my time, I hit you with the 411. Shit, you bit your tongue some odd years ago. Now you're all my confidence. Since and all along, you love the way that I commenced. Time and time, you love to hear a odd hook or two. Said she was a looker, but a tad bit better. Swear to never not needed. Heed the words, I'm never, but you love me more. Cause I heard
retour sur Radio Campus Tours 99.5 FM ou sur radiocampustours.com. Vous êtes toujours dans votre émission socioculturelle Sortez, et aujourd'hui, comme tous les lundis, eh bien, on laisse place aux chroniques, et notamment aux chroniques de Marie, voilà, qui nous a parlé du label Capitale Française et Européenne de la Culture.
Tout à fait.
Voilà, donc un label de subvention, d'aide, de mise en valeur.
C'est ça, surtout subvention du côté français, mais de mise en valeur du côté européen, on va dire.
D'accord. Et toujours dans le domaine de la culture, il y a bientôt un spectacle à la salle Télème.
Oui, c'est ça. Alors déjà, la salle Télème, en ce moment, il y a énormément de choses. Il y a notamment beaucoup de ciné-débats. Par exemple, le 8 mars, il y avait la projection d'un film sur justement l'égalité homme-femme et toutes les choses dont on peut entendre parler le 8 mars. Et dans le reste du temps. Mais cette semaine, du coup, le 17 mars, jeudi, à 20h à Télème, on a un spectacle qui est joué par les premières années de Master en Art du Spectacle, dont je fais partie. C'est un spectacle en anglais, mais pas de panique, il sera surtitré. Donc, dans le cadre de nos cours, on fait un cours de théâtre, et du coup, jeudi, c'est la restitution. Le titre, c'est A Series of Public Apologies, par John Donnelly, donc un dramaturge britannique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, globalement, c'est... on commence par un incident qui arrive dans une école, et les membres s'excusent, et ça va monter de façon de plus en plus absurde. L'événement va devenir de plus en plus viral, va devenir national. Donc on est sur une pièce qui parle aussi de comment une info peut être prise de premier but et ensuite évoluer, empirer, comment on passe de quelque chose de mineur à une révolution nationale. C'est tout à fait absurde, c'est l'humour très britannique, mais c'est très sympa. Donc c'est jeudi 17 mars à 20h à Télème, je vous invite à venir. Ne vous inquiétez pas, si vous ne maîtrisez pas très bien l'anglais, il y aura des surtitrages, et l'entrée est gratuite, il faut le préciser.
Et donc tu joueras dedans?
Oui, tout à fait, je jouerai dedans, donc si vous voulez voir, n'hésitez pas. Il y aura évidemment d'autres gens, on est 11, voilà, on a travaillé toute l'année dessus, on a fait de notre mieux, et on va tout donner jeudi.
Eh bien, on espère que les spectateurs seront nombreux, alors.
Oui.
Et donc, on continue avec...
Exactement, avec ta chronique. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Maxime?
Eh bien, du wokisme. Est-ce que tu en as entendu parler un petit peu?
Alors, c'est le genre de choses dont on a énormément parlé, mais tu sais pas trop comment le définir.
Voilà, le wokisme, effectivement, un terme utilisé, usé, essoré même durant ces derniers mois par de nombreux représentants politiques, en commençant par un de ses plus fervents adversaires, Jean-Michel Blanquer, pour qui le wokisme sape la démocratie et la République et qu'il compare volontiers à une forme d'obscurantisme. Il ira même jusqu'à créer son propre laboratoire de la République, hein, dans le but affiché de remporter une bataille des idées contre le wokisme qui menace la jeunesse française. Voilà tout un ensemble d'éléments rhétoriques donc qui tendent à disqualifier un adversaire.
Et donc, qu'est-ce que ça signifie, le wokisme?
Eh bien, c'est là que ça devient plus compliqué, hein, pour ceux qui le dénoncent. Pour comprendre, il faut remonter à ses origines. Il est né au 19e siècle, ce terme, aux États-Unis. Et ce mot a servi à décrire l'expérience des Noirs dans une société post-esclavagiste, minée par le racisme et la ségrégation. En 1896, Booker T. Washington, ancien esclave devenu professeur, développe cette idée de réveil des Noirs avec son texte « Awakening of the Negro ». Et Laurent Dubreuil, professeur de littérature à l'université de Cornell à New York, nous éclaire sur son premier sens. Il nous dit « Le contexte de son article, c'est de réfléchir au type d'éducation qui doit être donné afin d'éveiller l'esprit des jeunes noirs qui vivent maintenant dans un état qui n'est plus celui de la servitude ». Mais c'est après la mort de Michael Brown, abattu par un policier blanc à Ferguson en 2014, que le hashtag Stay Woke apparaît sur les pancartes des manifestants de Black Lives Matter.
Aujourd'hui, sa définition a changé ou pas?
En effet, sa définition s'est élargie, englobant finalement toutes les luttes contre le racisme, contre le sexisme, pardon, en somme toutes les luttes intersectionnelles. Plus le mot s'élargit, et moins il va être utilisé par ceux qui en sont à l'origine finalement.
Pourquoi on en entend parler alors?
Parce que ce mot a été repris par ses adversaires, notamment par le Parti républicain et Donald Trump, qui va en faire un outil rhétorique pour disqualifier ses adversaires. C'est sous cette forme que le wokisme arrive en France et que les membres de La République En Marche, notamment, vont reprendre.
donc il ne veut plus dire grand-chose.
Bien, c'est un peu ça, le wokisme est devenu, selon Clément Viktorovitch, une arme de disqualification massive permettant à ceux qui l'utilisent d'englober leur adversaire dans un concept creux qui ne peuvent définir. Ils sont pris au piège, et ce piège porte un nom. En rhétorique, c'est celui de l'épouvantail. Vous savez ce que c'est un épouvantail, hein, un homme de paille qui fait peur et fait fuir les oiseaux pour éviter qu'ils ne viennent ruiner les récoltes. Eh bien, en rhétorique, lorsque vous devez affronter votre ennemi, reprendre son argumentation point par point prendrait du temps, ce serait difficile, fastidieux. Il est alors plus facile de traduire, déformer, caricaturer même la pensée de votre adversaire. Vous allez présenter sa position comme volontairement erronée, mais avec une apparence de vérité criante. C'est l'homme de paille qui sera plus facile à combattre parce que vous allez ridiculiser la pensée de votre adversaire. On détourne ainsi le combat de l'autre, non pas sur son argumentation, mais sur sa pensée caricaturée.
Et du coup, c'est comme ça que l'expression wokisme est utilisée maintenant.
Bien, c'est un peu comme ça, exactement. Le wokisme est devenu le nouvel homme de paille de la rhétorique, facile à utiliser pour remporter justement ce combat des idées. Le souci, c'est que derrière les combats féministes, antiracistes, il y a des réalités. Alors, on ne peut ne pas être d'accord avec certains constats, ni même avec les solutions apportées. Mais tout de même, on peut se demander si en cette période électorale, les citoyens ne méritent-ils pas mieux que des combats à coups de concepts creux.
Eh ben merci Maxime, en tout cas, j'espère que ça nous a tous éveillés d'en savoir plus sur le wokisme. Et on se retrouve la semaine prochaine.
On se retrouve la semaine prochaine donc pour de nouvelles chroniques.
Et oui.
Et on va se faire une petite pause musicale avant de poursuivre cette émission avec le titre Skin Shape. Avec le groupe, pardon, Skin Shape, excusez-moi. Et le titre s'appelle Shangri-La. de retour sur Radio Campus Tours 99.5 FM ou sur radiocampustours.com. Vous êtes toujours dans votre émission socioculturelle Sortez. Nous sommes déjà dans la troisième partie de cette émission et nous allons, une fois n'est pas coutume, passer un petit épisode voilà, de l'émission du magazine d'actualité d'Arte, 28 minutes, présenté par Elisabeth Quin. Et en ce moment, l'actualité, c'est bien sûr la guerre en Ukraine. Le président français a récemment partagé sa vision, sa grave préoccupation pour la sécurité des sites nucléaires. Après le bombardement, le 4 mars, de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, située à Zaporojie, en Ukraine, la guerre suscite l'inquiétude de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a vivement condamné l'attaque de l'armée russe. Alors, guerre en Ukraine, faut-il craindre une catastrophe nucléaire, c'est la question que se posent Elisabeth Quin et ses intervenants.
La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, est-elle devenue une bombe à retardement? Depuis qu'elle a été bombardée vendredi dernier, la centrale est aux mains de l'armée russe. Beaucoup de riverains ont fui, ceux qui restent craignent le pire.
Ce sont surtout les anciens qui ont peur. Ils savent ce qui s'est passé à Tchernobyl.
36 ans après la catastrophe de Tchernobyl, l'armée russe s'est emparée de l'ancienne centrale, aujourd'hui à l'arrêt. Elle occupe Zaporijjia et avance vers un troisième site nucléaire. Une menace prise au sérieux, l'ambassadeur de France en Ukraine confirme la livraison d'antidotes en cas d'exposition à des éléments radioactifs.
Dans quelques jours, nous pourrons fournir 2,5 millions de doses de iode pour pouvoir parer à tout danger nucléaire.
La situation sur place est imprévisible et inédite. C'est la première fois en Europe qu'un conflit armé d'une telle ampleur se déroule dans un pays possédant autant d'infrastructures nucléaires. Grâce à l'atome, l'Ukraine est l'un des plus gros producteurs d'électricité au monde. L'Agence internationale de l'énergie atomique s'inquiète pour la sûreté des nombreux sites nucléaire.
De nombreux problèmes apparaissent ici et là. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Il doit y avoir des ententes claires ou des engagements clairs de ne pas s'approcher d'une installation nucléaire lors d'opérations militaires.
Les centrales ne sont pas des prises de guerre comme les autres, et Vladimir Poutine le sait. Quelle est sa stratégie? Jusqu'où peut aller le chantage à l'atome? Frappe de missiles, accidents ou personnel défaillant, y a-t-il un risque de catastrophe nucléaire?
Trois invités pour en débattre. Karine Hervieux, bonsoir. Vous êtes directrice générale adjointe de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN. Vous considérez qu'en cas d'attaque d'une centrale par les Russes, le risque principal serait la coupure d'électricité, car l'électricité est nécessaire au fonctionnement des systèmes de sûreté et au refroidissement du cœur du réacteur. À côté de vous, Antoine Arjakovski, bonsoir. Vous êtes historien spécialiste des questions russo-ukrainiennes. Selon vous, le danger est réel. Cette guerre est aussi une guerre énergétique et économique. La stratégie russe est d'appuyer sur la peur et de montrer que les Européens sont dépendants de la Russie, certes au niveau de l'énergie. Et à côté de vous, Pierre Arroche, bonsoir. Vous êtes chercheur en sécurité européenne à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM. Vous estimez qu'il y a peu d'intérêt pour la Russie à provoquer un accident nucléaire, mais les centrales sont stratégiques. Elles lui permettent de garantir son approvisionnement en électricité, en énergie donc, et de couper éventuellement l'approvisionnement de l'adversaire, de mettre à genoux l'Ukraine. On démarre ce débat avec une précision et un chiffre.
D'abord une précision, notre débat ne concerne pas la menace militaire nucléaire dans cette guerre, mais la menace bien sur le nucléaire civil. On rappelle que l'Ukraine est le 7e plus gros producteur d'électricité nucléaire au monde, et c'est le chiffre du jour. L'Ukraine dispose de 4 centrales nucléaires en activité. Elle compte en tout 15 réacteurs qui fournissent la moitié de l'électricité du pays, et avec 6 réacteurs, Zaporijjia est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Elle fournit 20% d'électricité du pays. Karine Hervieux, c'est Zaporijjia, enfin un bâtiment administratif à côté de la centrale qui a été bombardé. Si jamais, c'est un peu la question que tout le monde se pose, l'obus avait atteint un réacteur, que se serait-il passé?
Alors, difficile à dire, hein, ça dépend de quelle est la partie de l'installation qui est endommagée par l'obus. Il faut savoir que l'enceinte de confinement, ces bâtiments qui sont surmontés d'un dôme, c'est ce qui contient le cœur du réacteur et également la piscine qui contient les combustibles usés, donc qui ont servi un temps à produire de l'électricité dans le cœur du réacteur et qui sont ensuite déchargés dans cette piscine. Et donc ce dôme en béton.
Et la protection
est une protection à la fois pour l'environnement et les populations contre les émissions de produits radioactifs en cas d'accident à l'intérieur, mais aussi une protection vis-à-vis de l'extérieur. Maintenant, elle a un dimensionnement, elle résiste à la chute de certains avions, elle ne résiste pas à tout.
Pierre Arroche, dans quel état sont les centrales nucléaires ukrainiennes? On a en tête l'histoire de Tchernobyl qui n'est donc plus en activité. Les autres sont comparables aux centrales françaises ou européennes?
Ouais, je pense qu'effectivement, c'est plutôt une question à vous poser à vous. Moi, ce que je peux dire, c'est effectivement l'intérêt stratégique, militaire que ça peut représenter. C'est un vrai sujet, la protection des centrales nucléaires. C'est un sujet également en France. Généralement, ce qu'on envisage, c'est plus le risque terroriste, en réalité, que le risque d'un envahisseur. C'est une question qui s'est beaucoup posée au moment du 11 septembre. On anticipait que des avions soient pris en otage,
puissent être projetés.
Voilà, et soient projetés sur des centrales nucléaires. Et alors, pourquoi est-ce que c'était plus un enjeu pour les terroristes? Parce qu'on se disait, pour des terroristes qui ont a priori pas grand-chose comme moyen, alors ils prennent en otage un avion, ça démultiplie complètement leur effet, c'est-à-dire qu'ils créent une catastrophe nucléaire alors qu'à l'origine, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Pour un envahisseur comme la Russie qui a beaucoup de moyens, la question est très différente, c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas besoin a priori de ces techniques de contournement pour avoir un impact en Ukraine, et à l'inverse, il y aurait des effets négatifs pour eux. Le premier, c'est qu'ils ont des troupes sur place. Faire un accident nucléaire, ce n'est pas une frappe chirurgicale, ce n'est pas un outil précis. Donc, ils auraient des troupes qui seraient évidemment les premières concernées. Ils ont aussi leur territoire, la Russie, qui est très proche.
Pourquoi ce missile qui tombe à côté d'une centrale nucléaire et cette opération militaire autour de cette centrale?
Ah ben donc là, on était dans une opération militaire. Ils souhaitaient rejoindre de Mykolaïv pour joindre les troupes de Crimée vers le Donbass. C'était ça l'opération. Et de contrôler, bien entendu, ce site électrique de centrale nucléaire. Mais ce que moi j'observe, c'est que la prise de cette centrale de Zaporogier, ça a été une prise sauvage. C'est-à-dire que...
Qu'est-ce que vous appelez par prise? Qu'est-ce que vous entendez par prise sauvage?
Eh bien, on a vu que, en tout cas, ça a été le compte rendu de Kotine, le directeur de cette centrale, que eh bien, d'abord c'était des Russes et des Tchétchènes, des combattants tchétchènes. Mm-hmm. Ensuite, que le directeur de cette centrale nucléaire, il parlait avec des soldats derrière lui, avec des Kalachnikovs. Donc c'est quand même... C'est pas comme ça qu'on peut diriger une centrale nucléaire, même si c'est civil, ça reste quand même très dangereux. On a appris aussi, en tout cas c'est l'AIEA qui l'a dit. L'Agence de l'énergie atomique, qu'à Tchernobyl, il n'y avait pas de relais du personnel de sécurité. Mm-hmm. Ils ne peuvent plus communiquer que par des emails. Mm-hmm. Et donc ça, en termes d'urgence, c'est dramatique. Que les circuits téléphoniques sont aussi coupés. Et donc, voilà, c'est pas comme ça qu'au XXIe siècle, on peut imaginer une sûreté des centrales nucléaires. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est que c'est une guerre sauvage. On a appris ce matin qu'il y a eu un missile qui est tombé aussi sur un institut de recherche nucléaire à Kharkiv, avec un réacteur qui s'y trouvait. Donc voilà, même s'il n'y a pas eu de radiation, manifestement, qui ait été observée...
Mais c'est une volonté d'intimidation, c'est une volonté de créer la terreur pour l'Occident, c'est...
Pour moi, c'est une guerre sauvage. C'est-à-dire qu'ils avaient des buts de guerre. Ils avaient, on le savait, ce blitzkrieg vers Kiev qui n'a pas abouti. On voit que ces troupes ne sont pas aussi excellentes qu'on l'imaginait. On voit qu'il y a des missiles qui se perdent dans la nature.
Ça n'est pas volontaire.
Pour moi, c'est une guerre sauvage avec... alors ensuite, que ça soit volontaire ou pas volontaire, c'est une guerre, et c'est donc extrêmement dangereux.
Alors, on va revenir avec Nadia sur les conditions de travail du personnel des centrales nucléaires. Que vous avez commencé à évoquer, Antonin Jakovski.
Exactement, des conditions qui vont à l'encontre d'un des 7 piliers de la sûreté nucléaire. Celui qui veut que, j'ouvre les guillemets, la direction et le personnel d'une centrale doivent pouvoir s'acquitter de leurs tâches dans des conditions stables, sans interférence ou pression extérieure. C'est ce qu'a rappelé l'ONU il y a quelques jours. Or, ça n'est plus du tout le cas, visiblement, en tout cas pour ce qui est des sites de Tchernobyl et de Zaporijja, parce qu'à Zaporijja d'abord, donc, habituellement, le site emploie 11 000 personnes. Aujourd'hui, les équipes ne compterait que 800 personnes à peine pour une maintenance qui doit se faire 24 heures sur 24, mais beaucoup plus grave. Habituellement, toujours, ces équipes, elles changent. Il y a des systèmes de rotation, elles changent toutes les 8 heures. Maintenant, c'est toutes les 12 heures. Donc, on imagine évidemment l'état d'épuisement et de stress de ces équipes. Ça n'est pas tout, puisque ce personnel, il est aussi entravé dans ses différentes missions. Ça aussi, ça a été rappelé. Les opérateurs techniques doivent maintenant quasiment systématiquement demander l'autorisation aux militaires russes pour pouvoir effectuer certaines opérations. Ce que le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a qualifié de gravissime. Il était extrêmement énervé dans ses prises de parole. Il s'est également inquiété du fait que, vous le disiez également, que le personnel ne peut quasiment plus communiquer avec l'extérieur. Les liaisons ont été coupées par téléphone, par mail et même par fax. Pendant 24 heures, ils n'ont tout simplement pas pu communiquer. Car interview, jusqu'à quand est-ce que ça peut durer? Est-ce que ça signifie pas que ce qu'il faut redouter, finalement, c'est l'accident que ça peut générer? Alors, ce type de situation,
c'est effectivement une situation très préoccupante. Hein. Les opérateurs d'une centrale nucléaire, pour travailler correctement, ils ont besoin d'avoir toute sérénité, de communiquer entre eux. Donc effectivement, on imagine l'état de fatigue, l'état de stress la dans pression, lequel ils sont, la pression. Hein. Donc effectivement, c'est une de nos craintes également. Ils tournent effectivement en 2-12, c'est-à-dire deux équipes qui se relaient. Je ne sais pas s'ils ont l'occasion de sortir du site, il semble que non. En tout cas, voilà, on n'est pas sur place, on n'a pas ces informations.
Il ne peut y avoir aucun observateur.
Et à notre connaissance, non. L'autorité de sûreté ukrainienne nous donne les informations et en donne effectivement régulièrement à l'Agence internationale pour l'énergie atomique, mais on n'a pas d'informations vraiment sur l'état des troupes, j'allais dire, des personnes qui...
Du personnel
de la centrale qui ont avant tout besoin de sérénité pour faire correctement leur travail. Donc effectivement, on n'est pas à l'abri d'une erreur ou du fait de l'état de fatigue très important.
Pierre Arroche, est-ce que la IEA, l'Agence internationale d'énergie atomique, a des leviers? Est-ce qu'elle peut aller visiter ces centrales? Est-ce qu'il y a des règles internationales, vous me direz, qu'ils peuvent ne pas être respectées, mais qui existent dans des cas concrets comme celui qu'on vit?
Ça, c'est effectivement à voir avec la Russie. C'est-à-dire qu'effectivement, la Russie peut autoriser ou ne pas autoriser les visites de la IEA. Il y a eu des signaux qui ont été envoyés de la part du président Poutine en disant qu'il se voulait rassurant, il voulait autoriser ce genre de visite, etc. Maintenant, ce qu'on sait aussi, puisque je ne veux pas non plus donner l'impression que si la Russie n'a pas intérêt à provoquer un incident, ça veut dire qu'elle est totalement de bonne foi et qu'il faut se fier à leurs paroles. On sait aussi que pour Vladimir Poutine, en particulier aujourd'hui, tout est l'objet d'un rapport de force. Donc tout peut être monnayé, tout peut être l'objet d'une pression. Alors, donc ça rend la question beaucoup plus délicate.
Le président Zelensky a dit que c'était sans précédent que dans un conflit militaire moderne, il y ait comme ça une prise de centrale nucléaire. Ça n'est pas arrivé dans les... Le président ukrainien, pardon. Ça n'est pas arrivé dans les conflits récents. Il n'y a pas d'exemple récent.
Il y a eu quand même des exemples de conflits qui ont impliqué des centrales nucléaires, mais de façon différente. Il y a un exemple très connu, c'est Israël qui a bombardé une centrale nucléaire en Irak en 1981, la centrale d'Ozirak. C'était pour empêcher le développement du programme, mais c'était à un stade suffisamment précoce pour que ça élimine le programme sans faire de dégâts. Et l'enjeu n'était évidemment pas de causer une catastrophe. Donc c'est un enjeu. Il y a eu aussi un enjeu autour du nucléaire iranien, où il y a eu une attaque cyber de la part des États-Unis et d'Israël, de ce qu'on pense, le virus Stuxnet qui a été envoyé sur le programme nucléaire iranien pour le stopper, là encore. Donc,
mais rien de similaire à ce qui se passe en ce moment.
Voilà, c'est généralement de cet ordre, c'est-à-dire stopper un programme avec une idée que ce programme pourrait conduire aussi à des visées militaires, etc.
Alors que là, il y a deux réacteurs qui fonctionnent à Zaporogé. C'est ça la grande différence.
C'est ça la différence. Alors précisément, on va s'intéresser à travers le portrait qu'en fait Thibault Nolte à Petro Kotine, qui est président de l'entreprise Energoatom, pardonnez-moi pour la prononciation, mais je crois que c'est ça, je parle sous votre contrôle, qui exploite la centrale de Zaporijjia. Il accuse les Russes donc de terrorisme nucléaire.
Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Petro Kotine, j'ai vos radios sous les yeux, c'est pas gégère. Vous êtes depuis près de 2 ans le président de l'entreprise publique d'énergie nucléaire ukrainienne Energoatom, qui gère les 15 réacteurs du pays. Le 3 février, comme le reste du monde, vous ne croyez pas à une invasion, mais avez préventivement renforcé la sécurité des centrales. Un mois plus tard, celle de Zaporijjia est passée sous contrôle russe après qu'un feu s'est déclaré sur le site. L'ambassadeur russe à l'ONU dénonce un incendie volontaire des Ukrainiens. Pour vous, les Russes ont délibérément pilonné le site.
Après les tirs nocturnes sur le site, 100 unités militaires sont arrivées. Puis les bombardements ont commencé.
Vous avez raconté au Monde comment la centrale aux 11 000 salariés, la plus grande d'Europe, a été attaquée à coups de bombes, de tirs de chars et d'infanterie par l'armée russe entre 1h40 et 4h30. Comment les techniciens ont pu continuer leur job, mais 10 à 15 cadres ont dû travailler sous les ordres russes, le canon sur la tempe. Vous avez ajouté, si tous les réacteurs sont détruits, ce sera une catastrophe 6 fois pire que Tchernobyl. Tout dépend des Russes. Ce qu'ils font relève du terrorisme nucléaire. Abou Poutine, le mafieux que Daesh nous envie. Ironiquement, vous êtes né à Vladimir, 200 km à l'est de Moscou, et vous avez passé votre diplôme en installation de centrale nucléaire en 1985, juste avant la catastrophe de Tchernobyl. Sans vous démonter et avant de gravir les échelons du management nucléaire jusqu'à devenir une sommité consultée par l'AIEA, vous avez commencé simple opérateur dans cette centrale même de Zaporizhia, potentiel nouveau cauchemar atomique européen.
Ma vie, c'est un film choral. Magnolia à côté, c'est du pipi de Panthère des Neiges.
Mon cher Petro, si la Russie se risque à attaquer une centrale, la peur du nucléaire n'est même plus notre plus petit commun détonateur.
Merci Thibault Nôtre. Vincent.
Antonin Arjakovski, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl qui est dans l'imaginaire de tous les Ukrainiens, ajoute en plus à la crainte qui est née avec les tirs de ce missile sur le bâtiment administratif à côté de la centrale de Zaporizhzhia.
Oui, et puis pour les Européens aussi, parce qu'on connaît la série Tchernobyl qui a été faite il y a quelques années sur ce qui s'est passé à Tchernobyl et qui explique qu'on était à 48 heures d'un incendie sur le deuxième réacteur qui aurait eu des conséquences encore plus dramatiques sur toute l'Europe et pas uniquement sur l'Ukraine. Et c'est pour ça que c'est un point important, c'est que le ciel ukrainien est le ciel européen et que ce qui se passe en Ukraine concerne toute l'Europe. On a tendance aujourd'hui à dire... C'est pas notre guerre, ça nous concerne pas, c'est la drôle de guerre.
De moins en moins, il y a très peu de gens qui continuent à dire que c'est loin.
Bah, Le Drian dit on n'est pas en guerre. Et c'est, voilà. Alors que le ciel européen, c'est le même. Et donc c'est pour ça que moi, à titre personnel, j'insiste sur le fait qu'on ne peut pas rester l'arme au pied. Il faut aider les Ukrainiens à protéger leur ciel. Et si ce n'est à envoyer des chasseurs français, en tout cas de livrer des MiG à l'Ukraine pour leur permettre de protéger leur ciel. Parce que là, encore une fois, cette guerre-là, c'est pas du tout une guerre soignée, c'est une guerre sauvage et qui peut toucher des sites nucléaires. Donc c'est urgent. Pour l'instant, il y a des aéroports en Ukraine occidentale qui pourraient recevoir ces chasseurs occidentaux, mais bientôt peut-être plus.
Une réaction à ce que vous venez d'entendre ?
Oui, la décision qui a été prise par l'OTAN de ne pas faire de zone d'exclusion aérienne, elle s'explique très simplement, c'est que la position de l'OTAN, c'est qu'il ne faut pas s'engager dans une escalade avec la Russie. Il ne faut pas prendre la responsabilité de surélever le conflit et il ne faut pas prendre la responsabilité d'engager un conflit direct avec une puissance qui est une puissance nucléaire. Et comme une zone d'exclusion aérienne, ça reviendrait in fine à cet affrontement, on a exclu cette option. Il y a eu la question, effectivement, est-ce qu'il faut livrer des avions ? Ça a été posé. Il y a quelques pays qui sont compatibles parce qu'ils ont du matériel qui est semblable à celui sur lequel opèrent les aviateurs ukrainiens. Pour l'instant, la décision qu'ils ont prise, c'est qu'ils ne voulaient pas le faire. Donc, voilà, c'est aussi... On est toujours obligé de peser des facteurs multiples. Il y a effectivement l'aide qu'on veut apporter. Et puis aussi, on ne veut pas non plus une escalade.
Alors, faites-nous écouter un correspondant de Telegraph.
Un élément concret qui illustre cette tension, c'est ce à quoi assistait le correspondant de Telegraph, c'est-à-dire la distribution de diode. C'était à Zaporizhzhia. On le regarde.
Ils distribuent de l'iode. Regardez par ici. Vous venez, vous renseignez votre nom et la distribution est gratuite. Là, nous avons les comprimés, juste en bas. Vous prenez la moitié d'un comprimé tous les jours. La dose, c'est un demi-comprimé par jour. Et l'idée est qu'il protégera votre thyroïde, qui est la glande, on le sait aujourd'hui, qui absorbe la majorité des émissions radioactives.
Car énervé, beaucoup d'Européens ont découvert avec cet événement ces comprimés d'iode. Alors, quelle est leur utilité? Comment fonctionnent-ils? Pourquoi sont-ils distribués?
Alors, les comprimés d'iode permettent de saturer la glande thyroïde en cas d'accident nucléaire, de façon à ce que la thyroïde soit saturée avec de l'iode stable et que l'iode radioactif, si elle est inhalée ou ingérée, ne vienne pas se fixer sur la thyroïde. Ça a causé, après l'accident de Tchernobyl, de nombreux cancers de la thyroïde, notamment chez les enfants, qui sont les plus sensibles. Il faut rappeler que ça ne sert à rien de prendre un comprimé d'iode avant qu'il y ait un accident. Mmh. Il faut le faire sur instruction des autorités, mmh. c'est très important. Et je voudrais rappeler qu'en France, autour des centrales nucléaires, les comprimés d'iode sont prédistribués dans une, mmh. sur une distance de 20 km. Mais ce sont bien des comprimés à prendre uniquement sur instruction. Ce n'est pas du préventif, ça ne sert à rien de prendre des comprimés d'iode tant qu'il n'y a pas d'accident.
Et donc là, ça veut dire, là, c'est du curatif, là, cette distribution de 2 millions
et demi. Non, ce n'est pas du curatif, alors... il n'y a pas de rejet aujourd'hui enregistré. Hein. On surveille quand même au niveau des stations disponibles, des stations de mesure de la radioactivité dans l'air. Il n'y a pas de rejet radioactif aujourd'hui, il n'y a pas d'accident.
Y compris à Tchernobyl, malgré le passage des convois, on n'a pas mesuré.
Y compris. Alors, il y a eu des augmentations sur certaines stations qu'on n'arrive pas bien à comprendre. Mm-hmm. L'autorité de sûreté ukrainienne dit que c'est les chars russes qui ont pu remettre en suspension. Honnêtement, voilà, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements sur ces balises, donc on ne sait pas quelle est vraiment l'origine.
Pierre Arroche. Oui, Pierre Arroche, une question sur les Ukrainiens qui vont être isolés, sans électricité et qui vont être mis à genoux. Est-ce la stratégie de Vladimir Poutine qui expliquerait ces faux, vrais accidents autour des centrales ?
Je dirais que, de toute façon générale, que ce soit une centrale nucléaire ou non nucléaire, c'est toujours important de s'emparer des infrastructures critiques quand on envahit un pays. C'est un peu de la même façon, on va prendre possession des infrastructures de transport, moyens de communication, etc. Parce qu'évidemment, vous avez envie, alors, effectivement, d'avoir de l'électricité là où vous en avez besoin, éventuellement de le couper pour vos adversaires, mais aussi d'être capable... je dirais à plus long terme, si vous occupez le pays et que vous êtes en force d'occupation, de dire, bon ben là maintenant on fait le retour à la normale, l'électricité est là, les infrastructures refonctionnent, donc tout va bien, on est une puissance d'occupation responsable. Donc en gros, c'est une façon de contrôler le pays, de contrôler ses infrastructures importantes. Donc c'est sûr que c'est un objectif stratégique important, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, s'il y a des combats autour de ces centrales, etc., là, effectivement, ça peut être un problème, et ça peut causer des accidents. C'est plus ça qui est préoccupant, c'est-à-dire l'enjeu stratégique poussant à quelque chose qui n'est pas forcément volontaire.
Et Antonin Jakovski, cet objectif stratégique énergétique, est-ce que vous diriez qu'il participe d'une bataille plus large que mène la Russie sur le bras de fer énergétique pour essayer justement de montrer sa domination à un certain nombre de pays, notamment d'Europe de l'Ouest, sur ce sujet ?
Allemagne et France.
En l'occurrence... c'est un combat russo-ukrainien pour dominer. Voilà. Maintenant, il y a un enjeu plus large, effectivement, qui est de savoir à quel point l'Europe peut être indépendante de la Russie par rapport et aux matières nucléaires et, bien entendu, aux matières de gaz et d'hydrocarbures de pétrole. Si j'ai bien compris, la Commission européenne veut, d'ici janvier prochain, avoir 75% de ressources d'hydrocarbures russes en moins pour prendre justement une indépendance énergétique, mais va se poser aussi la question des matières fissiles qu'on utilise en France. Et là aussi, il va falloir prendre... Et je crois qu'aujourd'hui, Joe Biden...
Avec ça, jeudi soir, oui, avec tous les chefs d'État européens.
Et Joe Biden, aujourd'hui, parle aussi des États-Unis qui veulent se libérer...
Un embargo.
Du gaz russe. Donc, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais ça paraît indispensable.
Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.